Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ascendance où j'ai le plaisir d'y accueillir Paul. Paul est journaliste et j'ai découvert son travail à travers son compte Instagram où Paul partage des reels d'interviews de nos aînés, des morceaux de vie, de mémoires qu'évoquent nos anciens face à la caméra de Paul. Des entretiens forts, bruts, sans artifice, où ces témoins si précieux d'époques si différentes de celles que nous traversons aujourd'hui se livrent, avec parfois beaucoup de pudeur et tellement d'humanité. Je vous laisse avec notre échange. Il s'agit du deuxième épisode enregistré à distance. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu ce que je faisais. En tout cas, je suis trop contente de te compter parmi ma liste d'invités parce que, évidemment, par rapport à ce que je fais de mon côté, l'algorithme d'Instagram m'a vite proposé, dans mon feed, ce que tu faisais. Le projet est magnifique, que ce soit visuellement, intellectuellement, humainement. Et l'idée, c'est qu'on en parle de comment est né ce projet, où est-ce que tu vas avec, qu'est-ce que ça t'a permis de faire et qu'est-ce que ça a permis aussi aux personnes que t'as interrogées. Donc voilà, c'est un peu de ça dont on va parler sur le temps qu'on va passer ensemble.
Avec plaisir. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses parce qu'il y a des choses...
Il y a des réponses qui prennent...
Du temps, voilà.
Du temps, parfois toute une vie. Donc du coup, je vais te présenter un petit peu. Après, tu pourras agrémenter à ta guise. Donc du coup, tu t'appelles Paul Pétoureau, c'est ça ?
Pey.
Pey, pardon. J'avais un doute sur la prononciation du Y. Donc Paul Pétoureau. Et tu es journaliste. Et depuis quelques temps, tu fais des interviews de personnes âgées qui font partie plutôt de la quatrième génération au-dessus de nous. Et tu les interviews sur leur parcours de vie, sur leur anecdote de vie. Et tu en fais des réels sur Instagram pour partager, pour laisser une trace de cette génération sur les réseaux. D'où est venu ce projet ?
D'où est venu le projet ? Il est venu un petit peu par hasard. Après le confinement, quand j'ai commencé à prendre un petit peu en main le matériel que je venais d'obtenir, j'avais ma première caméra à ce moment-là, et j'ai voulu tout simplement m'exercer. Donc je suis allé filmer mes voisines à l'époque qui avaient 80, 90 ans à peu près, 80, ouais, 93. Ça a commencé comme ça, et puis 2 ans plus tard, je crois, Oui, c'est ça, 2 ans plus tard, j'ai posté des extraits de ces interviews sur les réseaux sociaux. Et c'est là où, effectivement, il y a eu quand même un bel engouement avec, je crois, 1 million de vues après la deuxième diffusion. Donc j'ai compris qu'il y avait vraiment peut-être une fenêtre pour ça. Et voilà comment ça a démarré, tout simplement.
Ok.
Mais par hasard, quoi.
Par hasard. Et on le voit sur ton... Du coup, je me suis un peu baladée sur ton compte depuis pour voir un peu tous les projets qui avaient été faits avec plein de personnes. Là, tu m'as dit, quand on s'est parlé pour la première fois, que tu allais repartir pour un tour de France pour faire de nouvelles rencontres, de nouvelles interviews. Et j'ai vu aussi donc, sur ton Insta que ça t'avait amené à travailler avec le ministère de...
Il y a eu effectivement une rencontre au ministère des Solidarités et des Familles en novembre dernier, mais c'était simplement une intervention finalement au sein d'une table ronde. Enfin, c'était vraiment une table ronde sur le bien vieillir, et la ministre à l'époque, Aurore Berger, m'avait invité parce qu'elle avait remarqué mon travail sur les réseaux, tout à fait par hasard aussi, et voilà comment ça s'est fait. Donc elle m'a proposé de témoigner là-dessus, et c'est ce que j'ai fait. Mais arrêter là, quoi.
D'accord, ça marche.
Super expérience, mais voilà, c'était l'histoire de quelques minutes.
Ok, c'est déjà super.
Oui, non,
c'est bien. C'est une super expérience. Pour revenir un peu sur les profils des personnes que tu as pu interroger, je trouve, c'est à toi, tu vas me dire, mais ce qui ressort vachement, je trouve ça assez impressionnant, en fait, de voir le nombre de personnes de ces âges-là, parce que y a beaucoup de ces personnes qui ont plus de 90 ans, voire des quasi-centenaires, qui viennent te parler un peu de moments de vie, et parfois, et très souvent, des moments de vie douloureux, ou alors qui les touchent beaucoup. Et comment t'arrives à instaurer, c'est quoi, comment ça se passe en fait la rencontre, comment t'arrives à instaurer ce climat de confiance pour permettre à des générations en fait à qui on n'a pas habitué comment dire, la transmission de la parole. Parfois c'est des générations qui parlent même pas de ça à leurs propres enfants. Comment
Un peu fermé parfois, peut-être, je sais pas. Ben voilà, ça fait là par exemple, c'est typiquement une réponse que j'ai pas,
Ok.
pas trop te dire. Je pense que déjà les personnes que j'interview sont désireuses de témoigner, de passer quelque chose. Si elles le font, c'est vraiment que la famille aussi les a poussées un petit peu. Enfin, vraiment, il y a vraiment un aspect pour eux, je pense, important dans le fait de laisser quelque chose. Après, sur l'instant, je sais pas l'expliquer. Je pense que moi, j'y vais un petit peu comme si c'était mes grands-parents. Tu vois, j'y vais sans pression, sans enjeu. Je me mets voilà, à les écouter tout simplement, et je pense que j'imagine que ça leur fait plaisir et que du coup, ils se laissent peut-être un peu porter par l'interview. Mais
Tu leur laisses carte blanche sur les sujets qu'ils veulent aborder?
oui et non, c'est-à-dire que j'ai quand même une trame qu'il faut que je respecte, mais en soi, s'ils veulent me parler de quelque chose, je ne vais pas les empêcher non plus.
Ok.
Je laisse
Tu les
porte
laisses
ouverte.
un peu. Tu les orientes, mais c'est eux qui guident principalement.
Alors c'est moi qui guide principalement, mais encore une fois, s'ils veulent aborder quelque chose, je laisse la caméra. Et puis voilà, c'est parce qu'en fait, je le fais aussi pour la famille. Je pense à mon projet, effectivement, mais je me dis que derrière, il y a la famille qui va récupérer tout ça.
Ok.
Peut-être qu'elle aura envie de savoir ça ou ça. Donc, très souvent, je laisse courir la caméra pour elle.
Ouais, tu fais un peu le lien entre. Parce que parfois, il y a tellement de pudeur entre parents et enfants que finalement, tu fais un peu le lien entre ce qui est difficile à dire directement aux personnes concernées. Tu sers un peu de trait d'union pour pouvoir permettre aux histoires un peu de se transmettre.
Ça, je peux pas te dire non plus, parce que je suis pas dans les familles et que
Oui.
j'ai pas non plus cette ambition ni ce rôle-là. Je pense que, en plus, très majoritairement, ce travail de passation, de transmission dans ces familles, encore une fois, là, est fait. Donc, moi, j'interviens après, finalement. Enfin, le travail est déjà pré-mâché, entre guillemets. Les personnes ont déjà raconté leur histoire maintes fois. Donc, c'est. Si j'arrive pas dans des familles qui, voilà, où la parole n'est pas libérée, quoi. Parce
D'accord. C'est
que ces
trop
familles me.
délicat.
Comment?
C'est trop délicat peut-être dans ces cas-là.
Ben, ça m'est pas arrivé tout simplement parce que les familles qui me contactent sont ouvertes à ça.
Ok.
Moi aussi, naturellement, par définition. Donc, je suis toujours dans des familles qui sont quand même ouvertes, voilà, sans tabou. Facile finalement dans la communication, dans la parole. Donc j'ai jamais été confronté à des personnes fermées, voilà, un peu taiseuses. Ça m'est jamais arrivé
D'accord, ok.
pour l'instant.
Ça marche, ok. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes par rapport peut-être à une rencontre, une interview qui t'a particulièrement touché, qu'on peut voir sur ton Insta, ou peut-être que finalement tu n'as pas mis, enfin.
Alors, il y en a plein que j'ai pas mis,
Ouais.
simplement parce que des fois, il y a pas suffisamment qui ressort d'une interview pour que je puisse en faire 2 minutes, quoi. Mais si c'est pas un format court, j'essaie d'en faire un format un peu plus long, ou alors un podcast, ça dépend des interviews. Mais après, ça fait 122 interviews maintenant. Donc des anecdotes, j'en ai pas mal sur ce que j'ai diffusé. J'aime bien le raconter, mais c'est ce monsieur qui mourait d'envie de raconter sa vie. Et je suis arrivé chez lui. En fait, il sait très clairement qu'il vivait ces dernières années. Et on sentait qu'il y avait vraiment une précipitation dans la narration. Il était vraiment bah, très content que je sois là. Et il voulait laisser quelque chose, il voulait raconter sa vie. Et du coup, c'est rare, mais j'ai quasiment pas eu à parler de l'interview.
Ok.
Il a relancé, il faisait le schéma voilà, de l'interview tout seul. Et on avançait comme ça. Voilà. Et c'était parfait, parce qu'il racontait bien, c'était chronologique, enfin, il avait tout en tête, et il avait juste à dérouler, et c'était super plaisant de l'écouter. Et très drôle aussi, parce que voilà, c'était un monsieur qui était né en 1930, je crois.
Wow.
Non, 28, 28. 1928. Et qui était parti en vacances grâce au premier congé payé. Donc si jamais tu vas aller voir ce reel, il est parmi, je dirais pas les premiers diffusés, mais ça fait un petit moment quand même que je l'ai diffusé. Et il raconte donc ses premières vacances à Dieppe avec un maillot de laine tricoté. Il raconte ça vraiment avec humour et voilà, de façon très décalée. Donc
Ok,
c'est vraiment.
j'irai l'écouter, puis je le mettrai dans la description de l'épisode qu'on enregistre ensemble, comme ça les gens verront aussi. Je trouve ça d'ailleurs, tu parlais de. Enfin, quand tu disais qu'il avait hâte en fait de pouvoir raconter et transmettre, là, de toutes les interviews que tu as faites, que j'ai regardées, il y a quelque chose qui me saute vraiment aux yeux. Je suis assez fascinée de voir, enfin, vu leur grand âge, la fluidité, la sérénité, l'émotion aussi parfois, mais qui dégage de leur récit. Enfin, vraiment, j'ai pas eu ces modèles-là, malheureusement, en tout cas très peu de cette façon de vieillir. En tout cas, moi personnellement. Et du coup, je trouve ça vraiment merveilleux de voir certaines personnes que tu interroges qui ont vécu la guerre, qui racontent la guerre et qui le racontent parfois avec la sagesse qu'on fantasme tous un peu quand on se voit vieillir, tu vois. C'est vraiment ce côté de. En tout cas, quand j'écoute les interviews que tu fais, moi, j'ai qu'une aspiration, par exemple, c'est d'atteindre ce niveau de sérénité, même en ayant vécu toute une vie avec parfois des choses vachement difficiles. Et vraiment, vraiment, moi, je suis très admirative de ce que tu fais, parce que, mine de rien, sur les réseaux, c'est pas ce qui ressort tout le temps le plus dans un feed, hein, faut dire ce qui est aujourd'hui en 2024. Quels sont ton auditoire et de quelle génération? Est-ce que tu en as des très jeunes? Est-ce que tu en as de à peu près notre âge ou plus vieux?
Les chiffres que j'ai sur Instagram sont majoritairement des personnes entre 25 et 45 ans.
Ok.
Majoritairement. Après, l'audience derrière qui suit, ce sont les plus jeunes, donc les 18-25, suivi ensuite des 45 et plus.
Ok.
Quand même une population assez jeune. Donc c'est chouette quand même d'avoir cette curiosité de la part, voilà, des nouvelles générations pour ce genre de contenu, quoi.
Bah ouais, de fou, parce que moi je me rappelle, je sais pas toi, mais quand on avait 13-14 ans, c'est peut-être des questions qu'on se posait peut-être pas forcément, ou des sujets auxquels on s'intéressait peut-être pas forcément. Enfin, je sais pas pour toi, si t'as quelque chose à te dire dessus, peut-être que c'est quelque chose qui déjà t'intéressait.
Ouais, ça m'intéressait déjà, mais après, encore une fois, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, oui, ça m'intéressait, je posais déjà des questions à mes grands-parents. Mais après, est-ce qu'on avait effectivement la possibilité de creuser ailleurs et autrement? Je ne sais pas. Enfin, tu vois, on n'avait pas forcément ce genre de contenu qui existait sur les réseaux ou sur Internet plus largement.
Oui.
Donc, il fallait peut-être aller à la bibliothèque ou j'en sais rien, enfin, tu vois, pour aller piocher. Autre chose. Donc peut-être que en fait tout simplement la curiosité est attisée parce que l'offre est là tout simplement et que si elle n'était pas là ben, les gens s'en foutraient mais vu qu'elle est là autant en profiter.
Oui, je
Peut-être.
vois.
Je sais pas, c'est aussi une hypothèse.
Non, ok, non, mais c'est la tienne et t'as droit. Où vas-tu un petit peu avec ces projets d'interview? Du coup, là, tu pars, tu m'as dit le mois prochain, là, dans quelques temps, pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux grands-parents. Comment ça se passe l'organisation de ton tour de France?
Alors pour l'instant, on n'a pas tellement commencé, c'est vraiment le tout début de l'organisation. Normalement, je pars je crois que c'est le 27, comme ça, fin mai, pour un voyage, mais un périple, on va dire, quand même de 3 mois sur les routes de France pour justement donc aller interviewer d'autres personnes dans toute la France. C'est le but, hein, que je puisse aller découvrir d'autres horizons et ne pas me cantonner à mon sud-ouest, mais voilà, élargir tout ça. Et c'est une grosse organisation, évidemment, parce que 150 personnes, enfin, c'est l'objectif, sont prévues sur ce périple-là, interviewées. Donc, il faut les trouver, il faut coordonner, évidemment, la date avec chacune, il faut que je trouve quelqu'un pour m'accompagner, il faut que je fasse la com sur ce Tour de France que j'ai même pas commencé. Donc, énormément de travail là-dessus. Mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Je ne suis pas forcément inquiet. La collecte de fonds qui a permis ce projet a abouti. Donc voilà, maintenant, ce sont des formalités. Je pense qu'il me manque encore peut-être un tiers des participants.
Ok, donc
Et
c'est une cinquantaine de personnes tout au plus.
voilà, exactement. Et surtout sur la deuxième période, la deuxième étape, donc celle qui arrive en juillet. Donc j'ai encore un petit peu le temps de les trouver. Là, pour l'instant, j'amorce avec le Grand Sud-Est. Donc c'est surtout ça qui va concentrer voilà, mes efforts ce mois-ci.
Ok.
Mais pour le reste, ça devrait aller aussi, je pense que.
Oh ben.
Alors,
Oui, il
la
y
petite.
a des anciens, il y en a partout et je suis assez
Ouais,
fière.
mais pour les trouver, justement, c'est ça qui n'est pas forcément facile
Ça, je suis
entre les.
d'accord.
Enfin, c'est justement arriver à toucher ces personnes-là, puisqu'elles ne regardent pas mes contenus, évidemment. Donc toucher leur famille, leurs petits-enfants, leurs enfants, et voilà, et essayer de les. Pas les convaincre, parce que je veux pas convaincre quoi qui que ce soit de faire quoi que ce soit, mais essayer de leur donner envie, de faire témoigner à leurs grands-parents pour qu'ils en conservent quelque chose aussi, quoi.
Je ne sais pas si tu connais ce genre d'ouvrage. C'est assez à la mode depuis quelques années. J'en avais offert un à ma grand-mère, mais elle n'a jamais rempli d'elle-même.
Ouais,
Mais
très.
c'est les livres de souvenirs à remplir. Voilà, c'est vraiment des prints déjà imprimés avec plein de catégories. Et en fait, tu peux l'offrir à tes grands-parents pour qu'ils puissent, par section, donner plus de détails sur leur vie. Ça va un petit peu avec ce que tu fais. C'est l'idée vraiment de se dire conserver les informations, les histoires, les anecdotes et les enfermer quelque part pour pas que ce
Après,
soit
le problème,
perdu.
c'est qu'on ne sait pas forcément par où commencer. C'est quand même un travail fastidieux, voilà, où vraiment on est seul face à soi-même. Écrire, même si voilà, y a des cases peut-être à cocher, enfin, des cases qui te dirigent vers tel ou tel chapitre de ta vie, c'est pas forcément facile de se retrouver voilà, face à ces nombreux souvenirs. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même l'interaction dans une interview. Tu peux aller et venir. Et c'est quand même plus sympa aussi.
Oui, c'est certainement plus naturel
C'est ça.
pour des personnes de cette génération de parler à quelqu'un en face
Ouais.
plutôt qu'autre
Bah
chose.
après, en fait, ce sont deux travaux distincts aussi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais puisque tu racontes pas forcément les mêmes choses non plus de vive voix que par écrit, et tu le racontes pas forcément de la même manière non plus.
Non.
Donc, ce sont deux approches différentes, mais. En termes de conservation, si on peut dire, je trouve que la vidéo quand même est plus sympa, quoi. Parce que
Ah
tu retiens.
ben oui, avec le format en plus, sur les réseaux, ça, c'est le format, ça accroche tout de suite, avec en plus les sous-titres pour parfois certains qui sont vraiment très âgés et qui ont la voix un peu plus chevrotante. Enfin, ça permet en fait que ce soit visuellement, auditivement, ça permet d'avoir une vraie trace et que ce soit pour les familles ou même pour les gens qui te suivent. Enfin, c'est
Voilà des réseaux, hein. Je pense que même pour
oui,
garder et montrer ça plus tard à ses enfants, ses
oui.
petits-enfants, pas qu'un livre voilà, qu'ils doivent lire. Et enfin voilà, tout simplement, hein, le pouvoir de la vidéo est toujours plus efficace, quoi.
Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais, sur quoi je voulais un petit peu t'amener? Voilà, je voulais te poser des questions peut-être un peu plus personnelles. Après, tu es vraiment libre de ne pas y répondre, en tout cas d'y répondre de la manière dont tu veux. C'est, t'as interrogé en premier, du coup, tes voisines pour ce projet-là. C'est l'occasion d'interroger, du coup, les anciens de ta propre famille. Ne t'es pas venu à l'esprit à ce moment-là? Ou même plus
J'avais.
tard?
Comment? Ou
Ou même
même?
plus tard par rapport à la dimension qu'a pris ce projet?
Mais ma famille, ils sont pas si âgés, mes grands-parents. On avait perdu la moitié déjà. À ce moment-là, quand j'ai commencé, et les deux autres sont bien plus jeunes, hein, ils ont à peine 80 ans, donc 10 ans plus jeunes que les personnes que j'interviewe. Donc ils peuvent pas rentrer malheureusement dans le projet. Après ça, effectivement, hein, j'ai pu les filmer par ailleurs, mais pas pour ça, quoi.
Ok. Et de toutes les personnes que tu as interrogées, est-ce qu'il y en a. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une situation, en tout cas une histoire qui t'a plus marquée qu'une autre? À moins que ce soit celle que tu nous as racontée tout à l'heure avec le monsieur qui avait hâte de pouvoir justement transmettre.
Il y en a tellement que ça se mélange déjà rien que d'y penser. Histoire marquante, il y a ce monsieur aussi au tout début que malheureusement j'ai mal interviewé parce que je n'étais pas préparé d'une part, je connaissais pas son histoire avant d'arriver. Et puis je l'ai un peu. Comment dire? Je l'ai mal interviewé au sens où le son était mauvais et j'ai pas pu exploiter l'interview derrière. Je le fais quand même, mais ça rend pas comme ça, ça fait pas professionnel du tout. Et du coup, je m'en suis voulu parce qu'il a vraiment une histoire de fou. Et il était né, je crois que sa mère l'a abandonné à la naissance de mémoire et qu'il a dû se débrouiller tout seul de ses 6 ou 8 ans jusqu'à ses 12 ans. Et puis il est parti travailler. Enfin, il a remonté la vie d'une force extraordinaire, et puis il a une énergie aujourd'hui qui est incroyable. Enfin, c'est un monsieur qui force l'admiration par son parcours et par son regard aujourd'hui sur les choses, quoi. Enfin, il est parti de rien du tout et il a bossé, bossé, bossé. Et il te raconte ça aujourd'hui avec beaucoup de tranquillité. Et malheureusement, ce monsieur, voilà, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir fait quelque chose de mieux pour lui. C'était à Albi à ce moment-là, mais des histoires j'en ai en pagaille, j'en ai en pagaille. Il faudrait que plutôt que tu me dises montrer une personne et je te dis plutôt voilà une histoire que j'ai pas diffusée ou tu vois peut-être c'est plus facile parce que là j'en ai beaucoup
Là,
trop.
c'est trop flou.
J'ai passé 2 heures à peu près avec chaque personne.
Ça fait.
Je diffuse malheureusement trop peu, mais ça fait tellement de travail aussi que je peux pas diffuser davantage, quoi.
Tu travailles seul sur ce projet?
Bien sûr. Ouais.
Seul, j'imagine, c'est colossal.
Ouais, ça fait pas mal d'heures, mais surtout aussi que j'aime bien ne pas trop diffuser. En fait, enfin, j'essaye d'aller à contre-courant de ce qui se fait sur les réseaux. C'est-à-dire d'éviter la surconsommation, de laisser le temps d'écouter, de profiter de chaque témoignage, même si d'autres peut-être voilà, sont moins importants entre guillemets que d'autres. Mais pour moi, voilà, tout se vale et c'est important de leur laisser voilà, le temps d'être apprécié. Donc je diffuse 2 fois semaine et c'est vrai qu'au regard de tout ce que j'ai, je devrais ben, publier 2, 3, 4 fois plus, quoi.
Moi, je trouve, enfin, ça n'empêche pas, en tout cas, de. En fait, je pense que peu importe, finalement, ça. Je pense que les personnes qui veulent ou qui peut-être ont besoin de tomber sur ce genre de contenu te trouvent. Et puis, il vaut mieux la qualité à la quantité, je pense, de toute façon. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est prendre le temps d'écouter, et puis, qui sait? Tu reposteras certainement, peut-être, je sais pas, j'imagine, d'autres extraits d'une personne à qui tu as déjà pu faire découvrir le profil et peut-être à un moment qui sera peut-être plus intéressant aussi. Enfin, c'est rien n'est impossible. Et puis, de toute façon, une fois que c'est dans la boîte.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que les témoignages sont là. Et puis, même si je ne l'ai pas dans les médias, peut-être qu'ils auront la chance d'être écoutés plus tard et ailleurs. Ou je sais pas. Enfin, en tout cas, ils sont là. Ils demandent juste à être montés, sous-titrés et puis diffusés. Donc, il y en a énormément. Enfin, c'est ouais. Je sais pas tout. Enfin, je sais pas ce qui va devenir de tout ça. J'ai aucune idée. Je veux dire de enfin, quand moi j'arrêterai quoi.
Oui.
Je sais. Est-ce que ça va intéresser, je sais pas, des historiens dans, je sais pas. Enfin, finalement c'est quand même un regard assez empirique sur une époque
Ah
donnée.
oui, bah là c'est.
Logiquement, je veux dire, c'est quand même c'est fascinant d'écouter, de pouvoir apporter comme un puzzle toutes ces pièces-là.
Oui.
Et de se dire que voilà, toutes ces pièces ensemble dessinent quelque chose. Tu vois, ça, mi bout à bout, en tout cas, c'est voilà, ça y ressort quelque chose, quoi.
Ah totalement. Bah rien que l'histoire d'entendre quelqu'un parler des premiers congés payés, alors que ben, nous, c'est quelque chose qui est acté et bien ancré depuis des années, depuis toujours pour nous. C'est là où tu vois l'écart entre juste quelques générations de comment le monde a changé, comment eux ont vécu les choses à leur époque et comment ils vivent leur époque maintenant. Et moi, je suis assez impressionnée de ces générations, surtout la capacité des personnes que tu interviews de pouvoir raconter avec autant de sérénité des moments parfois qui sont pas évidents et quelle est comment les familles enfin voilà comment quelles sont les réactions des familles par rapport à ton travail quand
Alors,
tu
je ne
leur
sais pas
dis.
tout. Certaines familles ne font pas de retour. Ben voilà, ça peut arriver.
Oui.
Ah, hein, je veux dire, pour celles qui en font, c'est toujours positif. J'ai vraiment des familles qui sont dithyrambiques et ça fait très plaisir.
Ouais, bah tu m'étonnes.
Moi, ça peut continuer. D'autres qui sont plus mesurés, mais qui remercient quand même voilà, pour ce qui a été fait. Donc, dans tous les cas, voilà, ce sont des retours qui poussent, quoi, qui motivent, qui stimulent et qui, voilà, qui motivent à continuer, quoi.
Bah, tu vois, c'est sûr. Puis c'est enfin, vraiment de tous les profils qu'on voit, on voit qu'ils veulent être là. Je trouve que c'est ce qui ressort aussi beaucoup. C'est.
Oui et
On...
non.
Ah! Ah!
J'ai
Vas-y,
pas.
développe, si ça t'ennuie pas.
Enfin, je pense que beaucoup le font justement pour la famille, comme je t'ai
Ok.
dit tout à l'heure, qu'ils se prennent au jeu évidemment, mais qu'au départ, l'intention c'est plus faire plaisir quoi, aux enfants.
D'accord.
Pas forcément raconter sa vie sur les réseaux. Très souvent, c'est ça, parce qu'ils ne sentent pas légitime de parler ou d'avoir quelque chose précisément à raconter. Donc, souvent, il faut que les familles insistent un petit peu pour que, voilà, pour qu'ils t'acceptent.
Ok.
Et voilà, c'est loin d'être la majorité, quoi.
Ok, bah c'est.
Je veux dire, la majorité préfère ne pas.
Oui, la majorité le font pour faire plaisir à la famille et pas parce qu'ils sont séduits dès l'idée de parler d'eux
C'est ça.
précisément. Ok. C'est bah d'où le. Enfin, c'est génial du coup que tu arrives à en trouver 150 là pour
C'est pas fait encore, mais
presque 150. Oui, bon, il reste un tiers, pardon.
quand même, bon,
Mais
c'est.
oui, ça reste énorme, mais en tout cas, enfin, moi, je te souhaite en tout cas de les trouver, même si enfin, je sais que enfin, visiblement, tu n'as pas trop de soucis à se faire vu l'engouement de ce projet.
Parce que c'est pas tout trouver les personnes, mais il faut aussi qu'elles soient réparties
Oui.
correctement. Et qu'elle puisse représenter tous les départements aussi, voilà, où je me rends. Et c'est vrai que d'avoir 5 personnes dans un même département et puis personne dans celui d'à
Ouais,
côté.
c'est un peu déséquilibré forcément. Mais
Donc.
et puis c'est ce que tu précises aussi, parce que du coup, tu fais des appels à projets régulièrement sur ton compte Insta. Et tu mets si jamais vous avez dans votre famille un ancien qui est capable Et c'est ça que je trouve intéressant de dire, qui est capable de raconter son histoire, c'est que bah, souvent, les générations de 90 ans et plus, c'est le cas en tout cas de mes grands-mères, il faut que ces personnes-là soient en capacité aussi physique et psychique de parler d'eux. Et ça, c'est pas toujours évident pour le coup.
Non, 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 effectivement, il y a la dimension physique qui rentre en compte. Dernièrement, j'ai eu un monsieur qui n'a pas pu finir l'interview, enfin, du moins, on a dû l'abréger. 99 ans, c'est normal aussi, quoi. Et voilà, mais on s'adapte, je veux dire, même pour peu que la personne voilà, soit motivée à le faire, quelle qu'en soit la raison, on arrive toujours à s'adapter au niveau ensuite de l'interview, soit voilà, en adaptant les questions, soit adaptant le format. Voilà. Des personnes. J'ai filmé aussi une personne aveugle.
Ok.
J'ai filmé interviewé des personnes sourdes. Donc on arrive toujours à se débrouiller.
Ok. Ça fait un beau panel de
Oui,
plein.
tant que personne parle, tant qu'elles sont pas muettes, ça
Ouais,
va.
le projet reste toujours possible. Quelles sont les conditions, enfin comment dire, est-ce que oui, est-ce que, enfin, quelles sont les conditions, est-ce qu'il y a des conditions pour participer à ton projet, mis à
Le
part la capacité
premier critère, c'est l'âge.
ouais.
Faut juste avoir 88 ans révolus. Alors, hormis ça, non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, évidemment. Mais sinon, non, non, il n'y a pas de conditions, de critères particuliers. C'est bien qui veut, quoi.
Pourquoi cet âge 88 précisément?
Parce que d'une part, parce que j'ai plus d'octogénaires que de nonagénaires. Et l'intention, c'est de donner la parole d'abord à ceux qui s'en vont en premier.
Ouais.
Donc, l'âge, ça, c'est la première chose. Et d'autre part, parce que y a quand même un chapitre qui concerne la guerre. Et les personnes qui sont nées avant sont moins susceptibles d'avoir des souvenirs, d'en avoir, voilà, d'avoir peut-être des flashs ou. Des souvenirs un peu vagues comme ça, mais c'est vrai que des souvenirs précis et complets, entre guillemets, je veux dire, avec de la matière, tout ça, enfin, c'est plus compliqué, quoi.
Oui.
Mais après 1937, 6, 7, 8, c'est plus compliqué d'avoir les souvenirs, quoi.
Oui.
Et après, voilà, c'est pas le seul chapitre, mais c'est quand même assez important dans le projet, et même si je veux pas parler que de ça, il faut quand même.
Ben, c'est les dernières personnes qui ont vécu, comme tu dis, sans être enfant, vraiment en étant adulte, cette période-là, en fait, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, je comprends ta priorité d'interroger. Ces personnes-là, parce qu'il y a de moins en moins de. Voilà, il y en a de moins en moins, vu que le temps passe enfin,
L'urgence.
y a urgence, oui, c'est. Je pense à Ginette. Oh zut, voilà, la moitié des infos, je ne me souviens plus de son nom, mais je le remettrai plus tard.
Je vois de
Pardon?
qui tu parles. Je dis, j'ai pas son nom, mais je vois de qui tu
Tu vois,
parles.
elle est survivante de la Shoah et elle a après, elle a beaucoup plus de 90 ans et elle continue à transmettre, à se déplacer malgré son grand âge dans les écoles, les collèges.
Mais il y a déjà un projet similaire, hein, qui se. Justement, j'ai rencontré la porteuse de projet au ministère, donc en novembre, et qui donc s'intéresse, elle, exclusivement aux personnes qui ont été enfin, survivantes de la Shoah, quoi,
Ouais.
rescapées. Donc elle mène ce projet, donc avec les derniers témoins donc dans toute la France, même dans l'Europe, je crois, parce qu'elle est partie à l'étranger aussi, il me semble.
OK.
Et donc elle, c'est vraiment le propre de son projet, quoi.
Oui, c'est vraiment interroger les personnes de la même génération que les personnes que toi tu interroges, mais spécifiquement qui sont survivants de la Shoah.
J'ai connu ça, ouais.
OK, c'est ça, c'est on
J'ai oublié son nom, je l'ai plus non plus. Bah, s'il a retrouvé, hein, sur Google, il suffit de
Oui,
taper.
oui, oui.
Mais
Oui,
j'ai
oui,
en tête.
oui. Mais j'ai que le prénom. Ouais, pareil pour moi, de mon côté, j'ai que le prénom. Et elle a un nom de famille de consonance polonaise. Je pense que ceux qui nous écoutent doivent voir aussi parce elle a écrit, elle a fait beaucoup d'interventions dans beaucoup de médias. Donc elle est facile à retrouver, mais je mettrai son nom dans la description. Ah, si tu as l'ordi devant toi et que tu peux dire
Ginette Kolinka.
Kolinka, merci beaucoup. Donc c'est Ginette Kolinka. Voilà, qui œuvre à la transmission de cette sombre période, étant elle-même.
Elle est connue maintenant, mais
Ouais, elle est connue.
elle passe un peu partout.
Ouais.
Mais il y en a plein, hein,
Ouais.
effectivement. Et même des personnes qui ont pas. Là, ce monsieur donc, avec qui j'ai dû abréger 99 ans, je posterai son témoignage mercredi, mais c'est un monsieur qui était. Et en fait, il y a encore des résistants qui n'ont jamais témoigné, on va dire, expressément dans un média ou qui sont passés dans un journal ou à la télé. En fait, il y a encore des résistants qui n'ont jamais dit qu'ils étaient résistants, quoi. Enfin, ils l'ont gardé plus ou moins dans le cercle familial, tout ça,
Oui.
mais ils ne l'ont pas forcément porté ailleurs. Et des fois, j'en trouve, un peu par hasard, mais des fois, je tombe sur des gens, effectivement, qui étaient. Donc, ça, c'est exceptionnel, quoi.
Oui, c'est exceptionnel.
D'avoir des gens comme ça en face.
Oui, c'est merveilleux et là, enfin, c'est vraiment très beau cette confiance du coup et puis cette envie en fait de finalement bah, en parler. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident.
Mais j'ai l'impression que pour elle, finalement, ça allait. Hein. Elle se met beaucoup moins je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression qu'on pense que ces personnes ont été traumatisées par la guerre, par tout ça. Alors évidemment, il y a des épisodes dramatiques, tout ça, mais quand elles en parlent, ces personnes, elles ont vraiment l'esprit reposé, quoi, et souvent même avec le sourire, elles en parlent. C'est quand même quelque chose qui me frappe très souvent, c'est que elles expriment tout ça avec beaucoup de gaieté.
Oui.
Alors soit c'est pour camoufler justement,
Oui, la pudeur.
sais pas, oui, là, voilà, de la pudeur, de la tristesse, mais en tout cas c'est toujours avec le sourire qu'elle parle de ces moments difficiles, que ce soit la guerre ou autre chose, mais.
Bah, ça me fait penser à deux de tes vidéos. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est cette dame qui avait 14 ans au moment de la libération et sa mère, elle lui tenait bien la main parce qu'elle voulait pas qu'elle aille embrasser. Les soldats qui défilaient pour la libération et qui du coup avaient pris des photos et elle le disait
Suzanne.
en rigolant parce que les photos elle n'était pas contente d'elle alors que les photos quand tu les regardes enfin, elles sont ouf tu vois elles ont vraiment une trace vraiment brute de cette journée et puis elle se dit oh mais c'est nul elles sont floues on voit rien et je trouve que son témoignage est cool parce qu'elle insiste vraiment sur le fait que sa mère lui tenait bien la main. Et puis, à contrario, justement, une vidéo un peu plus lourde que j'ai regardée tout à l'heure, et je crois que c'est celle qui m'a serré le plus le cœur, c'est ce monsieur qui parle de son instituteur qui s'appelait Monsieur Blondeau, je me souviens du nom, qui était justement résistant et qui s'est fait arrêter en pleine classe par la Gestapo et qu'il est resté digne devant ses élèves vraiment jusqu'au bout. Et après tout ce temps, ben, j'ai plus le prénom de ce petit monsieur en tête, mais tu vois que c'est comme s'il le revivait à l'instant T, quoi.
Jean-François.
Jean-François.
François et la dame, c'est Suzanne.
Suzanne, comme ma grand-mère.
Mmh.
Et ouais, c'est des
Effectivement,
beaux moments.
il y a encore. Ouais, là, tu vois, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais ce monsieur qui en parle, pour le coup, avec beaucoup de sérieux. Alors, tu vois que quand il abordait la question, son visage vraiment s'est fermé. Il revivait la scène, quoi.
Oui, ça se sentait.
Véritablement, quoi.
Ça se
Effectivement.
sentait parce que même à travers un écran, toi, j'imagine même pas en étant en face de lui, mais l'ambiance,
Mais il y a
tu la
très peu d'interviews
sentais.
qui m'ont déstabilisé. Je crois qu'il y en a trois, deux ou trois, sur 122.
Tu peux nous dire?
Les trois ou juste une en particulier?
Comme tu veux, moi je veux bien les trois, perso, mais.
Alors la première c'était avec Charles, malheureusement qui est décédé. Je sais pas si tu l'as vu, c'était un monsieur, j'ai diffusé plusieurs extraits de lui, mais qui avait fait sensation, c'est quand il disait, mais je ne vois pas vieillir. J'ai dit, mais tu l'avais vu?
Ouais,
Voilà.
j'ai.
Et ce monsieur, voilà, était incroyable en fait de répartie, de rhétorique, de ce que tu veux. Et du coup, j'étais totalement mais nul en tant qu'intervieweur face à lui. En fait, il devançait toutes mes questions. Il me reprenait surtout historiquement. Enfin, il ajustait chacune de mes questions pour mieux répondre. Enfin, c'était.
C'est lui qui menait.
C'est lui qui menait. Je ne pouvais rien faire là. J'étais totalement démuni. Et pourtant, j'avais déjà 40 ou 50 interviews derrière moi. Mais lui, il m'a un peu rappelé le métier. Donc, c'était vraiment un bel échange qui n'a pas duré longtemps, malheureusement. Mais vraiment un bel échange. La deuxième fois, donc c'était avec justement Jean-François. Mais surtout de la partie, la seconde partie de l'interview, où là, vraiment, on a parlé. J'ai presque oublié la caméra, moi aussi. On a parlé culture, quoi. On a parlé d'Israël, on a parlé. De l'état du monde aujourd'hui. Enfin, on a vraiment divagué et digressé, mais là aussi, je sentais que j'avais pas les notions, quoi. Clairement, j'étais noyé dans la masse d'infos et de notes et d'anecdotes qu'il me donnait, parce que j'avais pas les références, tout simplement. Donc, ce monsieur était vraiment très très cultivé aussi. Et la dernière en date, c'était une dame qui s'appelle Paulette, que j'ai pas encore diffusée. C'était à Toulouse, et là aussi j'étais un petit peu déstabilisé, parce que je n'ai pas non plus son histoire, et elle était née sous un père inconnu, voilà, c'est ça, un père inconnu, et elle avait fait ça vraiment pour sa petite fille. Et quand je suis arrivé, vraiment, j'ai senti qu'elle n'avait pas... Pour le coup, c'est vraiment la première fois où elle n'avait pas envie de parler, quoi.
Okay.
C'était un petit peu forcé. Et en fait, bon, finalement, ça s'est fait... voilà, on a réussi à faire l'interview. Mais j'étais stabilisé parce que cette femme, on sentait qu'elle n'avait plus vraiment le goût de vivre, quoi.
Oh.
Et je me rappelle, je ne sais pas si je vais avoir l'autorisation de le diffuser, mais j'aimerais beaucoup le diffuser, qu'elle m'ait dit que... Il arrivait qu'elle passait 50-60 heures sans parler à personne, et que tout ça, elle avait pu le calculer, puisqu'elle avait que ça à faire, et qu'elle attendait, enfin, c'est pas qu'elle attendait, mais elle voulait pas déranger ses enfants, on leur passait un coup de fil, donc elle attendait la contactent, et ça pouvait donc durer plusieurs jours. Et du coup, j'ai trouvé ça super fort, et là, je me suis retrouvé vraiment aussi un petit peu sur le cul, quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Et voilà, donc il faut rebondir en interview, hein. De toute façon, il faut. Mais c'est pas toujours facile.
Non, ouais, c'est un sacré exercice.
Un peu plein, où tu sais pas trop comment réagir et tu es un peu choqué aussi. Tu te dis, mais il faut la sortir de là, cette dame. Mais à la fois, aussi, ça révélait sur le moment aussi toute la détresse que peuvent ressentir certaines personnes âgées sur l'isolement, sur la solitude. Et c'est pour ça que je trouve que cet extrait sera important, parce qu'il voilà,
il colle bien à ton projet, et en fait c'est merveilleux quand t'as des interviews qui se passent bien et où t'as en face des personnes qui prennent plaisir à raconter. Mais la réalité de vieillir parfois, c'est d'être, ouais, comme tu dis, isolé, et parfois ne plus avoir envie de parler. Donc ça, à voir si la famille est d'accord, ça serait... Moi, je trouve ça chouette que ça montre aussi d'autres facettes, peut-être, que ce que tu as pu déjà montrer. Ça serait hyper complémentaire, quoi.
Mais en fait, c'est pas seulement que montrer voilà, comment était la France autrefois. Enfin, je veux dire, il y a plein de réels, de vidéos qui sont historiques. Mais pour moi, c'est aussi montrer comment on vit, comment on fait face à l'âge. Et montrer la vieillesse aussi telle qu'elle est, quoi. Donc, avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, on verra si c'est possible.
J'espère que ça le sera. Et pour terminer, je voulais justement, pour les personnes qui t'écoutent, qui nous écoutent, vers où les diriger si jamais ils seraient intéressés pour potentiellement t'écrire, s'ils ont un grand-parent ou un grand-oncle, enfin un ancien de leur famille. Qui pourrait proposer pour ton projet, ou est-ce qu'on peut t'écrire ?
Alors, sur les réseaux, tout simplement, je suis quand même assez dessus, donc Instagram, ou tout simplement sur YouTube aussi, en commentaire, enfin peu importe, ou par mail, quoi. Le plus simple, ça reste aussi le mail, tout simplement. mais voilà, je suis assez réactif, donc...
Oui, je confirme, tu m'avais répondu vraiment rapidement, ça m'avait fait vraiment plaisir d'ailleurs.
Bah, pour m'écrire, c'est normal de répondre. Donc...
Ouais, bah écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça au moins les gens pourront tomber sur ton Insta et puis ou sur YouTube à leur guise. Et en tout cas, je voulais te remercier de m'avoir accordé du temps. Voilà, je te souhaite de trouver les cinquantaines personnes à trouver pour ton projet de road trip en France pour continuer à interviewer ces belles personnes avec leurs belles histoires. Et merci encore une fois d'avoir
Merci.
répondu. Merci.
Merci à toi de relayer tout ça.
Ah, bah écoute, avec plaisir. Grand, grand plaisir. Un grand merci pour votre écoute sur cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Merci à Paul d'avoir accepté mon invitation, merci pour ce moment de partage. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode l'Instagram de Paul où vous pouvez retrouver tous ses entretiens et les informations concernant son projet d'interview dans toute la France. N'hésitez pas à vous abonner à Ascendance sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode. L'actualité d'Ascendance est à retrouver sur son compte Instagram ascendance.podcast. Si cet épisode vous a plu, dites-le avec des étoiles ou un commentaire. À bientôt sur Ascendance et prenez soin de vous.